Ma communication aurait pu être intitulée en effet « Le paysage et l'allusion japonisante » de Cambrai à Balbec. Mais je voudrais commencer par justifier le titre que j'avais annoncé, non sans raison, « La nostalgie de l'Orient ». L'expression est utilisée dans Contre-Sainte-Beuve à propos de Nerval, dans un fragment qu'on a évoqué tout à l'heure. Selon Proust, il est convenu aujourd'hui que Gérard Nerval était un écrivain du XVIIIe siècle attardé et que le romantisme n'influença pas, un pur gaulois traditionnel et local qui a donné dans Sylvie une peinture naïve et fine de la vie française idéalisée. En songeant à Jules Lemaître ou à Maurice Barrès, qui célèbre dans Sylvie l'évocation du pays du Valois, pays de mesure, de grâce moyenne et bien français, Proust affirme que Sylvie est le rêve d'un rêve, né d'une sorte de subjectivisme excessif et marqué par une couleur irréelle, d'une couleur pourpre, d'une rose pourpre en velours pourpre violacé et nullement les tons aquarellés de leur France modérée. C'est dans ce contexte, dans le but de critiquer le courant traditionnaliste nationaliste, que Proust dessine un portrait cosmopolite et troublant de Nerval en rappelant ses connaissances de la littérature allemande, ses accès de folie et sa nostalgie de l'Orient. Or, le récit de Cambrai, qui est sans doute moins le rêve d'un rêve que le souvenir d'un souvenir, semble perturber à sa manière la vision traditionnelle et locale de la campagne française grâce justement à une série d'allusions orientales et orientalistes. Je reprendrai quelques éléments de la communication précédente et aussi je reprends une interprétation proposée par Alain Buissine qui partait d'une description justement des boutons d'or au début de la promenade du côté de Guermantes. Dès sa plus petite enfance, le héros tendait ses bras vers ses fleurs sans pouvoir épeler complètement leur joli nom de prince de conte de fées français, venu peut-être il y a bien des siècles d'Asie, mais apatrié pour toujours au village, content du modeste horizon, aimant le soleil et le bord de l'eau, fidèle à la petite vue de la gare, gardant encore pourtant, comme certaines de nos vieilles toiles peintes, dans leur simplicité populaire, un poétique éclat d'Orient. Voilà, pour citer Alain Buissine, l'Orient délicatement incrusté au cœur même de la francité, et démentant déjà sa pureté. On se souvient de l'image que le héros se fait de Guermantes, aussi abstrait que la ligne de l'équateur, le pôle ou l'Orient. On se souvient aussi d'un autre signe oriental dont Cambrai, les lilas qu'on a évoqués tout à l'heure, du parc de Swann, jeune Eury, qui gardait dans ce jardin français les tons vifs et purs des miniatures de la Perse. La flore familière de l'enfance à Cambrai annonce ainsi ce que Alain Buissine appelle l'orientalisation généralisée. En effet, toute la géographie romanesque de la recherche du temps perdu s'orientalise en passant par Balbec et Venise jusqu'à Paris pendant la guerre, à travers la mémoire des mille et une nuits, jadis peint sur les assiettes de tante Léonie, désormais associée au roman des invertis qui aura pour cadre fantasmatique Bagdad, Pompéi, Sodome. Ajoutons que les contes arabo-persans seront finalement érigés en modèle de livre à venir, à côté des mémoires de Saint-Simon, sans oublier que les références bibliques juives et antisémites constituent un autre versant de l'orientalisme chez Proust, comme l'a montré Anne Simon dans son article sur le rôle structurant de l'Orient chez Proust. Or, cette omniprésence du mirage moyen-oriental ne doit pas masquer une autre série de références orientales, référence au japonisme, que je voudrais aborder en reprenant le dossier établi et étudié par plusieurs chercheurs, notamment Luc Fraisse et Junji Suzuki. Dans Cambrai, on compte trois allusions japonisantes à propos de la madeleine, des nymphéas et des pommiers. On essaiera d'abord de comparer leur rôle avec celui des boutons d'or qu'on vient d'évoquer et auxquels Proust attribue, dans un brouillon, un poétique éclat d'Extrême-Orient, comme si Orient et Extrême-Orient étaient interchangeables. On examinera ensuite quelques lieux communs associés à trois artistes japonisants, Monet, Whistler et les Goncourt, pour mieux définir l'usage du japonisme dans le roman de Proust. La première allusion japonisante, la plus célèbre, apparaît dans l'épisode de la Madeleine comme métaphore du souvenir involontaire, souvenir caractérisé par un déploiement spontané d'images, par un processus automatique de différenciation et de reconnaissance. Comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau de petits morceaux de papier jusque-là indistincts, qui à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, etc. Vous connaissez tous ce passage. Cette allusion à un petit objet exotique trouve ses justifications dans plusieurs échos qu'elle peut recevoir ou produire dans le roman. On en retiendra deux. Premier écho, ces petites fleurs en papier japonais, plongées dans l'eau, préparent l'annonce des nymphéas de la Vivonne, associées au japonisme et à la série des tableaux de Monet, comme on le verra plus loin. Deuxième écho, la référence japonaise, qui conclut l'épisode en ouvrant la suite, forme le couple avec une autre allusion culturelle et ethnique qui introduit l'épisode de la Madeleine. Il s'agit de l'allusion à la croyance celtique, à l'immortalité des âmes, que vous connaissez certainement. Plusieurs sources ont été proposées. L'histoire de France de Michelet, ou la guerre des Gaules de César, mais je voudrais rappeler que dans les brouillons, Proust écrivait une légende bretonne ou certaines légendes populaires. Avec l'adjectif celtique, on s'éloigne plus nettement de l'univers catholique de Combray, symbolisé par la Madeleine dévote de Tante Léonie. S'il est vrai que le premier souvenir involontaire ressuscite une enfance profondément ancrée dans un village français traditionnel, Proust tient à l'associer à des civilisations lointaines dans le temps et dans l'espace, à l'ouest et à l'est, suggérant ainsi l'étrangeté troublante de cette expérience à la fois euphorique et énigmatique, drame de l'esprit et du subjectivisme. Toute une série d'allusions, tout ce qui renvoie au japonisme, paysage et émotion, tout cela est sorti de la tasse de thé. En voici la deuxième qui évoque après les boutons d'or une étape splendide de la promenade du côté de Guermantes, les petits étangs que forme la Vivonne, de véritables jardins de nymphéas. Comme les rives étaient à cet endroit très boisées, les grandes ombres des arbres donnaient à l'eau un fond qui était habituellement d'un vert sombre, mais que parfois, quand nous rentrions par certains soirs rassérénés d'après-midi orageux, j'ai vu d'un bleu clair et cru tirant sur le violet, d'apparence cloisonnée et de goût japonais. On peut constater que le principe du croisement transculturel est toujours à l'œuvre, car avant les nymphéas, rappelons-le, et ça a été rappelé tout à l'heure, Proust décrit un nénuphar isolé, condamné à un aller-retour mécanique entre les deux rives, et comparé à un neurasthénique comme Tante Léonie, ou encore un malheureux supplicié dans l'enfer de Dante, référence occidentale par excellence. Et un peu plus loin, la comparaison avec une fête galante renvoie au XVIIIe siècle français et au genre pictural représenté par Watteau. Enfin, tout se termine par une transposition littéraire des nymphéas, paysages d'eau de Monet, série exposée en mai 1909, comme Kazuyoshi Yoshikawa en a magistralement reconstitué la genèse. Mais dans ce réseau de références esthétisantes, quelle est exactement la place ou l'apport du goût japonais? Qu'est-ce que Proust entend par là? Sans doute la coloration vive, inhabituelle et presque violente de l'eau qui reflète le ciel, couleur d'un bleu intense qu'on peut admirer dans les estampes japonaises, puis les ombres des arbres qui se dessinent et cloisonnent cette surface luisante comme un émail. Mais le texte est si vague que toute tentative d'identification des sources semble d'avance vouée à l'échec. Proust renvoie moins à une œuvre particulière qu'à une manière reconnaissable. Il utilise l'image que ses contemporains se font de l'art japonais pour aménager le territoire imaginaire de son roman, ce qui revient à exploiter certains lieux communs esthétiques de son temps. Pour mesurer l'étendue du japonisme dans la recherche, il faudra donc essayer de démêler l'entrelacement de discours japonisants en s'arrêtant sur trois grands propagateurs de modèles ou de pensifs japonisants, Monet, Whistler et les Goncourt. D'abord Monet. Avec les nymphéas de la Vivonne, Proust semble rappeler et confirmer un pensif connu qui est celui de la parenté du japonisme et de l'impressionnisme. Lors de l'exposition des nymphéas en 1909, le peintre le reconnaît lui-même. S'il faut trouver un maffilier, rapprochez-moi des vieux japonais. La rareté de leur goût m'a de tout temps diverti et j'approuve les suggestions de leur esthétique qui évoquent la présence par l'ombre, l'ensemble par le fragment. Le critique d'art Théodore Duret, de son côté, avait affirmé « L'art japonais rendait des aspects particuliers de leur nature par des procédés de coloris hardis et nouveaux. Il ne pouvait manquer de frapper des artistes chercheurs et aussi a-t-il fortement influencé les impressionnistes. » Le goût japonais d'encombrer est celui des impressionnistes. Et Proust imite Monet pour japoniser la vivonne. Or, l'alliance du japonisme et de l'impressionnisme se répète dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » où le héros regarde la mer dans sa chambre à Balbec. Mais leur rapport devient plus complexe avec une référence à Whistler. Le passage fait allusion à des genres variés mais semblablement voisins. Une exposition d'estampes japonaises, une toile impressionniste, une étude des nuages, la répétition, chère à certains maîtres contemporains, d'un seul et même effet, pris toujours à des heures différentes, ce qui renvoie implicitement à Monet, et le nom de Whistler est cité à la fin. Voici la partie évoquant une exposition d'estampes japonaises. À côté de la mince découpure du soleil rouge et ronde comme la lune, un nuage jaune paraissait un lac contre lequel des glaives noirs se profilaient, ainsi que les arcs de sa rive, une barre d'un rose tendre que je n'avais jamais revue depuis ma première boîte de couleurs, s'enfilait comme un fleuve sur les deux rives duquel des bateaux semblaient attendre à sec qu'on vint les tirer pour les mettre à flot. Une remarque génétique. Dans un brouillon du cahier 37, le même type de paysage est comparé non pas avec des estampes japonaises, mais avec des kakemono japonais, selon Yasue Kato, qui rappelle aussi qu'en 1905, lors de la première rétrospective de Whistler, Proust recommandait à sa mère de regarder, je le cite, « les choses genre estampes japonaises ». Dans le texte définitif, l'hardiesse du coloris, rouge, jaune, noir, rose tendre, est associé à une série de méconnaissances qui sont autant de métamorphoses ou métaphores selon la terminologie de Proust, le soleil comme la lune, un nuage comme un lac, des arbres comme des glaives, une partie de la mer comme un fleuve, autant d'illusions d'optique provoquées surtout par les effets de la perspective dont on lira la valeur théorique dans le port de Cactui. À tout cela succède une allusion à l'impressionnisme qui illustre un autre type d'illusion récurrente de la marine d'Elstir, où deux éléments contigus se confondent en une seule matière dans un éblouissant jeu de la lumière. J'avais plus de plaisir les soirs où un navire absorbé et fluidifié par l'horizon apparaissait tellement de la même couleur que lui, ainsi que dans une toile impressionniste, qu'il semblait aussi de la même matière, comme si on n'eût fait que découper sa coque et les cordages en lesquels elle s'était amincie et filigranée dans le bleu vaporeux du ciel. En deux paysages successifs, Proust aura annoncé les lois qui gouvernent le grand tableau d'Elstir. On serait même tenté de voir là l'illustration implicite de deux des trois manières d'Elstir, celle où il avait subi l'influence du Japon et celle impressionniste des marines, du moins dans le texte définitif qui ne présente aucun exemple concret et explicite de la manière japonisante. Or, dans le cahier 28, Proust décrit assez longuement la passion du japonisme chez le peintre qui n'a pas encore de nom, en la présentant comme l'une des idolâtries que le futur Elstir finit par sacrifier avant de ne peindre plus que des paysages et des portraits tels qu'il les avait sous les yeux, sans scène mythologique, sans œuvre d'art ou de curiosité ajoutée. L'idolâtrie est un péché d'érudition matérialiste qui consiste à admirer un objet, un personnage ou un paysage réel parce qu'il est représenté dans une œuvre d'art. C'est confondre la vie et l'art, méprendre le travail de l'artiste qui cherche à traduire sa vision individuelle, ses impressions véritables. Dans le cahier 28, Proust réalise en quelque sorte une mise en abîme de l'idolâtrie, car la confusion entre la réalité et la représentation esthétique domine les tableaux japonisants du peintre fictif. Dans des arrangements pleins de goût, on voit ainsi disparaître la distinction entre les azalées dans un vase et les fleurs peintes sur la porcelaine, entre les magots placés sur les consoles et les magots peints sur la robe de la femme ou sur les volets de son éventail, ou encore entre la femme et des paravents où des femmes aussi grandes qu'elle se détachaient plus nettement et envoyaient dans les glaces un plus vif reflet. Le principe de la confusion visuelle qui régnera dans le port de Carquetuy semble ici accuser l'idolâtrie des objets exotiques. Ainsi, l'œil charmé et perdu ne savait pas distinguer les fleurs vivantes des fleurs en soie et la femme en chair des femmes en porcelaine. C'est une allusion au titre d'un tableau de Whistler, La princesse du pays de la porcelaine. À propos de ces figures féminines, Proust ajoute en marge sa théorie de l'idéal intérieur et individuel. Seulement, ces japonaises ne pouvaient pas arriver à avoir l'air tout à fait japonaise. Et si leur regard avait quelque chose d'enfantin, ce n'était pas d'une puérilité orientale, mais de cette innocence, de cette inexpression antique qu'avait la femme qu'il peignait toujours. Pourquoi Proust a-t-il supprimé ce long passage ? Dans le texte final, l'idolâtrie japonaise s'estompe dans la carrière du peintre, comme s'il s'agissait de le séparer de ce qu'on peut appeler mondanité et japonaiserie d'Odette et de Madame Verdurin. Et les fausses japonaises disparaissent au profit de Miss Sacripant, d'ailleurs déjà présente dans le même cahier. Le portrait d'une jeune actrice d'autrefois en demi-travestie a certes le mérite de renvoyer au thème de l'inversion sexuelle, comparable aussi à la jeune fille à bicyclette. Ainsi, les éléments majeurs du japonisme d'Elstir, fixés autour des fausses japonaises anonymes dans le manuscrit, sont pour ainsi dire relayés et absorbés par deux modèles féminins dont la version définitive. La loi de la confusion visuelle est transférée au décor de la jeune Odette. Le verre du porte-bouquet, aimé pour lui-même, avait l'air d'enfermer l'eau ou tremper les tiges des œillets dans quelque chose d'aussi limpide, presque d'aussi liquide qu'elle. Et la théorie de la vision individuelle et la critique de l'idolâtrie se développent à propos de Madame Elstir, incarnation de la beauté idéale, piège et invitation au matérialisme. En résumé, dans le cahier 28, l'engouement pour le Japon est explicite et négatif, passif et passager, antérieur à la maturité impressionniste. Passion des motifs exotiques, symptômes d'idolâtrie et de matérialisme. Dans le texte définitif, ces réflexions critiques se rapportent au portrait féminin sans curiosité orientale, vidant ainsi le contenu de la manière japonisante d'Elstir dans sa carrière. En revanche, c'est donc dans les descriptions de la mère vue par le héros que Proust aura choisi de suggérer discrètement la continuité entre la deuxième et la troisième manière d'Elstir, en faisant allusion à l'estampe japonaise, puis à la toile impressionniste, de façon à annoncer la grande synthèse, le port de Carquetuy. Les curiosités exotiques abandonnées, l'inspiration japonaise devient implicite et positive, voisine de l'impressionnisme, mais seulement dans la vision rétrospective du narrateur qui aurait assimilé la leçon du peintre, car le héros, tout occupé des jeunes filles, ne sait pas alors approfondir la beauté du paysage. Ainsi, au détriment du héros plutôt que d'Elstir, l'estampe japonaise apparaît comme une variation étrangère de l'impressionnisme, variation explicitement dépaysante. Enfin, malgré le cliché qui reconnaît l'influence de l'art japonais sur l'impressionnisme, Proust aura évité d'aborder directement cette question à propos d'Elstir. Mais rien d'étonnant à cela, puisque son dogme impressionniste est celui de Turner, apporté par Raskin, et que ce dogme, par définition, rejette toute influence extérieure, toute culture apprise. Voilà comment la place du japonisme s'est rétrécie dans la dissertation sur Elstir, pour ne survivre que dans les descriptions allusives de paysages marins qui ornent la chambre du héros narrateur. Après le goût japonais associé à mon nez, et l'influence du Japon chez Whistler et Elstir, il reste à aborder une troisième et dernière figure du japonisme, les Goncourt. En effet, l'évocation d'une exposition d'estampes japonaises à propos de la mer de Balbec peut être lue aussi comme une double allusion au Goncourt, considéré d'abord comme amateur d'art japonais, mais aussi et surtout comme représentant de l'écriture artiste qui se caractérise entre autres par la perception de la nature comme œuvre d'art. Chaque allusion japonisante mériterait sans doute d'être considérée comme un exemple de ce que Annick Bouillaguet appelle le pastiche intégré des Goncourt. Citons de l'Art Journal, à la date du 4 juin 1864, la description d'un jardin des nénuphars près de Fontainebleau, avec des allusions à Fragonard et à la porcelaine de Chine. Sur l'eau, à l'ombre, un jardin fermé par une haie de roseaux à la Fragonard, levant leur lance, d'où retombent si élégamment des tiges brisées et tout au bord les larges feuilles des nénuphars, offrant et présentant, ainsi que des tasses sur des soucoupes, leurs fleurs étincelantes de blanc frais à cœur jaune, reflétées dans la rivière lucide. J'adore ces plantes, ces fleurs aquatiques. L'eau me semble rouler la fleur de l'Orient et l'Orient même. Le roseau et le nénuphar me font penser au décor de la porcelaine de Chine, et il y a de l'Asie pour moi au bord de toute rivière. L'orientalisation de la vivande n'est peut-être pas aussi exceptionnelle qu'on pouvait le croire. Certes, la position de Proust à l'égard des Goncourt est ambiguë. Tout en s'opposant à la notation superficielle, matérialiste et érudite des objets exotiques pour eux-mêmes, comme en témoigne le pseudo inédit du journal dont le temps retrouvait, Proust s'approprie le procédé de l'écriture artiste qui assimile des paysages à des œuvres d'art. On pourrait se demander s'il ne s'agit pas là aussi d'une forme d'idolâtrie qui consiste à imiter le goût et le style d'autrui au lieu d'approfondir ses propres impressions. Mais la combinaison avec une allusion impressionniste à Combray et à Balbec suggère que l'allusion artiste au goût japonais ou aux estampes japonaises se justifie et même s'impose dans la mesure où elle constitue une métaphore qui révèle une vérité esthétique de la perception. La question n'est donc pas de savoir si Proust copie ou démarque tel ou tel passage du journal des Goncourt, mais d'examiner comment chaque allusion provoque des résonances dans le roman tout en retravaillant certains modèles. On a examiné des échos qui se produisent entre la petite Madeleine et le jardin des nymphéas, entre la mère de Balbec et l'atelier d'Erstir. Pour terminer, voici le troisième signe japonais dont Combray, qui par ailleurs inaugure toute une série de paysages aux pommiers. Au retour de la promenade, il y avait une allée de chênes bordée d'un côté de près, appartenant chacun à un petit clos et plantée à intervalles égaux de pommiers qui y portaient, quand ils étaient éclairés par le soleil couchant, le dessin japonais de leurs ombres. Le rapprochement n'est pas inédit, car comme le remarque Junji Suzuki, Edmond Goncourt notait à la date du 18 avril 1870 la ressemblance qu'avaient sur l'allée les ombres portées des branches, des ramures, des petites feuilles naissantes avec les dessins d'albums japonais. Mais donc Combray, le dessin japonais des ombres des pommiers est lié à l'angoisse du drame du coucher après la joie de la promenade, angoisse qui se superpose à la vue de certains ciels quelque peu japonisés, composé de bandes multicolores. La zone de tristesse où je venais d'entrer était aussi distincte de la zone où je m'élançais avec joie il y avait un moment encore, que dans certains ciels, une bande rose est séparée comme par une ligne d'une bande verte ou d'une bande noire. On voit un oiseau voler dans le rose, il va en atteindre la fin, il touche presque au noir, puis il y est entré. Pommier et ciel, la double allusion japonisante n'est pas là seulement pour clore en beauté la promenade orientalisée du côté de Guermantes. Elle illustre non sans humeur la psychologie du héros dans le temps, tout en déréalisant le paysage crépusculaire chargé d'émotions et de troubles. Ce japonisme ne se réduit pas à l'impressionnisme pictural, au dogme de la perception pure. Japonisme lyrique sentimentale, celui des pommiers atteindra son apogée lors du deuxième séjour à Balbec, à la fin des intermittences du cœur. Proust reprend plusieurs éléments évoqués, dont Cambrai. À perte de vue, ils étaient en pleine floraison. D'un luxe inouï, les pieds dans la boue et en toilette de bal, ne prenant pas de précautions pour ne pas gâter le plus merveilleux satin rose qu'on eût jamais vu et que faisait briller le soleil. L'horizon lointain de la mer fournissait aux pommiers comme un arrière-plan d'estampes japonaises. Si je levais la tête pour regarder le ciel entre les fleurs, qui faisait paraître son bleu rasséréné, presque violent, elle semblait s'écarter pour montrer la profondeur de ce paradis. On retrouve la couleur de la vivande dans ce bleu rasséréné, presque violent, tandis que les pommiers ne sont plus associés à l'amour pour la mère, mais pour la grand-mère, deux fois morte, enfin retrouvée, et qui entre dans cet improbable paradis japonais, sous forme d'un pommier refleuri, rajeunie comme une débutante au bal, les pieds dans la boue, crottée comme elle était à Cambrai, signe qui permet de la reconnaître ici. Lisons la suite. Sous cet azur, une brise légère mais froide faisait trembler légèrement les bouquets rougissants. Des mésanges bleus venaient se poser sur les branches et sauter entre les fleurs, indulgentes, comme si c'eût été un amateur d'exotisme et de couleurs qui avait artificiellement créé cette beauté vivante. Mais elle touchait jusqu'aux larmes parce que si loin qu'elle alla dans ses effets d'art raffiné, on sentait qu'il était naturel, que ces pommiers étaient là, en pleine campagne, comme des paysans, sur une grande route de France. Encore un motif associé à la grand-mère dont Cambrai, celui du naturel opposé à l'artificiel, à propos de la symétrie des jardins et des tuteurs de rosiers ou de la photographie. Mais en cette journée de printemps, où les rayons de la pluie finissent par zébrer tout l'horizon, comme dans une estampe, on voit s'abolir la frontière entre la nature et l'artifice, comme celle qui sépare le Japon artiste et la France paysanne. En guise de conclusion, il serait sans doute exagéré et même erroné de dire que Proust avait subi l'influence du Japon où il en avait la nostalgie. Mais l'usage qu'il fait du japonisme dans son roman est si raffiné qu'à la première lecture, avouons-le, ces pommiers en fleurs m'avaient inspiré la nostalgie de la Normandie japonaise que je n'avais jamais vue, n'en déplaise à Madame Verdurin qui prétendait que sa Normandie à elle était un immense parc anglais. Au cours de cette petite promenade à travers quelques allusions japonisantes, on a pu redécouvrir un cosmopolitisme peut-être méconnu de Proust, qui est celui du jardinier coloriste. D'après une lettre de juillet 1913 à Louis de Robert, le premier volume aurait pu s'intituler « Jardin dans une tasse de thé ». Sans discuter du choix final, la culture transnationale dans la recherche du temps perdu est aussi une horticulture littéraire ouverte à la beauté étrangère et étrange, naturelle et décorative, dépaysée et dénaturalisée, horticulture d'un roman à la fois français et sans frontières. Je vous remercie.